Nous allons lire un texte ce matin qui est tiré de Exode 1, chapitre 1, verset 8 à 2, verset 10. C'est une partie d'histoire que chacun de nous connaît bien depuis peut-être notre tout jeune âge, l'histoire de Moïse. Donc ça se passe en Égypte. Un nouveau roi, donc un pharaon, commença à régner sur l'Égypte, mais il ne savait rien de Joseph. Il dit à son peuple, « Voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre. En cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. » Catastrophe. Les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant certains travaux. C'est ainsi que les Israélites durent construire les villes de Pithom et Ramsès pour y entreposer les réserves du Pharaon. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils prenaient de place, si bien qu'on les redoutait. Les Égyptiens les traitèrent durement comme des esclaves. Ils leur rendirent la vie insupportable par un travail pénible. Préparer l'argile, faire des briques, exécuter tous les travaux des champs. Bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Il y avait chez les Hébreux deux sages-femmes, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donna cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à coucher, regardez bien l'enfant qui naît. Si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes respectaient Dieu. Elles n'obéirent pas au roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Alors le roi les convoqua et leur dit, « Pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi laissez-vous vivre les garçons ?»« C'est que, répondirent-elles, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et mettent leurs enfants au monde avant l'arrivée de la sage-femme. » Ainsi, les Israélites devinrent de plus en plus nombreux et très forts. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes en leur accordant des descendants parce qu'elles lui avaient obéi. Mais le pharaon donna à tout son peuple l'ordre suivant. « Jetez dans le Nil tout garçon hébreu nouveau-né, ne laissez en vie que les filles. » Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, quand on passe à la Chine. Mais c'est l'inverse. Un homme de la tribu de Lévi épousa une femme de la même tribu. La femme devint enceinte, puis mise au monde un enfant, un garçon. Elle vit que l'enfant était beau, et le cacha durant 3 mois. Ensuite, ne pouvant plus le tenir caché, elle prit une corbeille en tige de papyrus, la rendit étanche avec du bitume et de la poix, et y déposa l'enfant et alla placer la corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui arriverait. Un peu plus tard, la fille du pharaon descendit au Nil pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la corbeille au milieu des roseaux et envoya la servante la prendre. Puis elle ouvrit et vit un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et s'écria, « C'est un enfant des Hébreux !» La sœur de l'enfant demanda à la princesse, « Dois-je aller te chercher une nourrice chez les Hébreux pour qu'elle allaite l'enfant ?»« Oui, » répondit la princesse. La fille alla chercher la propre mère de l'enfant. La princesse dit à la femme, « Emmène cet enfant et allaite-le-moi, je te payerai pour cela. » La mère prit donc l'enfant et l'allaita. Lorsque l'enfant fut assez grand, la mère l'amena à la princesse. Celle-ci l'adopta et déclara, « Puisque je l'ai tiré de l'eau, je lui donne le nom de Moïse. »
Je lis un verset dans Hébreux 13, hein, le verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux. et de ceux qui sont maltraités comme étant eux, vous aussi dans un corps, comme étant vous aussi dans un corps.
J'ai apprécié que Irène a prié pour la prédication parce que je vais vous parler de quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Je n'ai pas fait l'expérience. Donc, que le Seigneur lui-même nous parle dans nos situations. Ce que j'aimerais que vous imaginiez un instant, que peut-être les voisins ont observé quand vous êtes parti de la maison et ils ont constaté que c'est toujours le dimanche matin que vous partez comme ça. Est-ce que vous avez été suivi en venant jusqu'ici? Peut-être vous vous trouvez au chômage malgré des capacités excellentes parce que c'est écrit chrétien sur vos papiers. Ou vous n'arrivez pas à vous loger correctement. Est-ce que vos enfants sont harcelés à l'école? La maîtresse leur a posé la question, mais à la maison, est-ce qu'il se trouve un livre qui se présente un peu comme ça? Et maintenant, vous avez peur que vous allez être dénoncé. Peut-être vous êtes la seule parce que votre mari est en prison. Vous avez le droit de le visiter deux fois par an. Et vous ne savez pas comment vous allez nourrir vos enfants aujourd'hui parce que vous n'avez pas de revenus. Ou peut-être vous êtes là exceptionnellement parce que vous savez que votre famille vous mettrait à la porte si elle découvrait que vous êtes chrétien. Ou peut-être la nuit vous essayez d'empêcher le nouveau-né de pleurer trop fort de crainte que les voisins dénoncent qu'il y a un garçon né dans votre foyer. Juste voir. Nous voilà dans le monde, donc, de l'Église persécutée. Je laisse juste encore un instant aux techniciens, si ça peut marcher, ça va nous aider à être encore mieux dans le monde de l'Église persécutée. Sinon, c'est pas grave.
On lui a dit qu'il devait renoncer à sa foi. Il a répondu qu'il ne pouvait pas faire ça. On lui a dit de ne plus jamais prier. Il n'a même pas répondu. Comment pourrait-il arrêter de prier? On lui a dit qu'il aurait des problèmes s'il continuait à parler de Jésus aux prisonniers. On lui a dit qu'il serait torturé s'il persistait à lire la Bible en cachette. On lui a dit que ce livre était la cause de tous ses ennuis. On lui a dit, laisse tomber. Laisse tomber ce livre dangereux.
On n'a pas toujours tous les détails, mais on a suffisamment d'informations pour comprendre la douleur de nos frères et sœurs qui vivent des situations de persécution au quotidien. Dans notre passage, ça nous a révélé dans la vie publique, c'était une situation terrible. Ils étaient accablés, verset 11, on mettait un poids sur des travaux forcés. Si on a vu des films comme Moïse, prince d'Égypte, on sait ce que ça représentait. Les hommes étaient réduits comme des esclaves, réduits, verset 13, à un dur esclavage. Et ce n'était pas plus facile pour les femmes. Parce que si dans nos versions c'est écrit les garçons et les filles, en fait, c'est le sens premier, c'est les fils étaient à mettre à mort. Si c'est un peu général garçons et fils, mais garçons et filles, mais c'était le garçon. Le fils, pour ceux qui en ont des fils, c'était celui-là qui était à mettre à mort. La réalité d'une suppression systématique qu'aujourd'hui on appellerait un génocide. Voilà, nous voilà en Égypte. C'est le début de l'Exode, mais c'est une actualité dans certains lieux dans notre monde d'aujourd'hui. Et cela pour le peuple choisi de Dieu. Ça nous surprend parce qu'ils étaient quand même là selon les instructions de Dieu qui avait dit à leur père Jacob, mais de sang en Égypte. Et je ferai de toi une grande nation. C'était là, ils étaient là selon la promesse de Dieu. Mais année après année, il semblait que Dieu était silent, qu'il les avait oubliés. Vous imaginez, 400 ans. Le peuple de Dieu, le but d'une hostilité imméritée. Le lot du peuple de Dieu dans leur marche sur cette terre. Et voilà quand ça ne marche pas, le dictateur en place mobilise l'ensemble de la population. On l'a entendu au verset 22. Il donne l'ordre à tout son peuple de balancer dans le Nil les fils. Voilà donc la situation des Israélites. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Dans un certain pays, Tina et Makan ont pu sortir de la prison. Ayant dû fuir la paix, ils ont été torturés et ils risquaient trop leur vie s'ils y restaient. Dans le même pays, deux femmes, Mariam qui a 27 ans et Marthie qui a 30 ans, ont été jugées au mois d'août de cette année et parce qu'elles refusaient de renier leur foi, les voilà jetés à nouveau en prison. Dans un autre pays, dans le continent de l'Afrique, plusieurs croyants ont perdu. Les croyants refusaient de signer une déclaration selon laquelle ils se réunissaient illégalement, donc ils ont été menacés de la mort. Et pourtant, l'Église avait demandé en vain son enregistrement. Dans un autre pays en Asie, tous les biens des chrétiens confisqués. En Inde, le parti nationaliste cherche à ajouter état par état la loi anti-conversion. En Sri Lanka, avec la fin de la guerre civile, les agressions contre les églises et les croyants sont en augmentation constante. Dans un autre pays, pas de Bible Ça peut exister aujourd'hui? Oui, c'est le cas dans les îles Maldives. Au Pakistan, quelqu'un a été tellement maltraité en prison qu'il a dû être hospitalisé longtemps, victime de fausses accusations. Quand il sort de l'hôpital, il doit retourner à nouveau en prison. Au Moyen-Orient, un tel craint que son épouse va le quitter avec ses enfants parce qu'il est devenu chrétien. Et pour deux femmes, elles ne sont plus en sécurité dans leur famille. Mauritanie, nous avons entendu aux nouvelles même, après l'assassinat d'un travailleur humanitaire chrétien, alors les familles chrétiennes maintenant sont vraiment dans la crainte. Et ça continue. Nous pouvons lire ça. C'était simplement les informations de Portes Ouvertes du mois dernier et leur liste de prières. Et de mois en mois, on a ces informations. Il me semble que cette réalité qui nous confronte nous pose plusieurs questions. Dans notre premier chapitre d'Exode, il y a, semble-t-il, la souffrance sans explication. Pourquoi, Seigneur? Je crois que c'est le résumé de ce premier chapitre. Pourquoi tous ces ennuis? Est-ce que ton peuple s'est trompé quelque part? Ils ont fait des mauvais choix, ils ont pris un faux tournant, ils se sont éloignés de la volonté de Dieu. Rien ne suggère c'est la conséquence d'une faute quelconque de leur part. Non. En fait, c'est Dieu qui les a envoyés dans cette situation. Écoutez le début du chapitre 46 de Genèse. Dieu appelle Jacob. « Me voici, dit Jacob, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi. » Dieu ne les a non seulement envoyés, il les a accompagnés. Dieu est avec eux, mais la souffrance est toujours autant réelle dans leur situation. Ils ne sont pas en dehors de sa volonté. Mais quand est-ce qu'il y aura délivrance, Seigneur? Pas d'explication dans notre texte de ce qu'on aimerait savoir. Mais le Seigneur ne se présente pas pour expliquer, se justifier. Paul dira, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'était de cette manière-là qu'il affirmait les chrétiens de l'Église primitive. Et c'est de la même manière que beaucoup de chrétiens dans les pays communistes, bouddhistes, islamistes, hindouistes, matérialistes, entre dans le royaume de Dieu. Alors vous dites, ce matin, ce n'est pas vraiment un tableau très encourageant. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Et malgré ces questions importantes, c'est également important qu'on n'arrive pas aux mauvaises conclusions. style, soit Dieu est impuissant, soit il laisse tomber les siens. Ce n'est pas ce qu'on voit dans notre texte en Exode. On n'a pas lu les premiers quatre versets, mais là, on aurait trouvé des noms qui sont inscrits sur la terre et dans les cieux. Les noms de la famille. Il y a Shifra et Pua dont les noms sont inscrits dans les cieux, qui sont là exactement où Dieu les veut, dans le métier qu'il a choisi pour elles. Et puis, il faut admettre que c'est totalement illogique que la superpuissance de l'époque qui met tout en marche pour que ce peuple, verset 10, ne se multiplie pas. Et qu'est-ce qu'on trouve au verset 12? Plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Comment expliquer que partout où l'Église est persécutée, elle se multiplie et elle s'accroît. En Iran, il y a eu la révolution en 1979 d'un régime dur depuis. Et vous savez qu'il y a plus d'Iraniens qui sont devenus chrétiens depuis que les 1000 ans qui précédaient la révolution en Iran. Est-ce qu'on peut imaginer, comprendre qu'il y a un soin caché mais constant de la part du Seigneur pour son peuple? Un soin caché, toujours, même si on ne le voit pas, même au milieu de la souffrance qui reste la réalité. La prière, et ça nous étonne, la prière de l'Église persécutée et la prière qu'il demande n'est pas que ça s'arrête, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous le courage de tenir ferme. Seigneur, accorde-nous persévérance. Seigneur, accorde-nous à aimer ceux qui nous persécutent. Et puis, peut-être vous avez remarqué comment le Seigneur a la manie de tourner à leur désavantage ceux qui se dressent contre lui. On va supprimer les hommes, mais les femmes, il ne faut pas s'en soucier. Après tout, c'est que des femmes. Et voilà que se forme un réseau de résistance de femmes. Le service d'accouchement à domicile arrive toujours un peu en retard. La fille de Jochebed, chapitre 2, verset 1. D'abord, on rencontre Jochebed, la fille de Lévi, et puis sa fille à elle, grande sœur de Moïse, Myriam, va être celle qui espionne dans le camp ennemi et fait sa gentille proposition. Mais peut-être je pourrais vous trouver une femme parmi les Israélites qui pourrait prendre soin pour toi de ce bébé. Et voilà que la fille même du dictateur accueille et protège le libérateur prévu. Dans sa maison même. La méthode de supprimer l'Église est la manière qu'elle progresse. Dans notre texte, et c'était grâce à des femmes courageuses. Et les efforts de bloquer la croissance aujourd'hui aboutissent dans la multiplication du peuple de Dieu. Souvent grâce à des femmes courageuses. Un chant dans la nuit. Témoignage de femmes courageuses dans notre monde d'aujourd'hui. Je descendrai avec toi en Égypte. Et, j'ai pas lu la fin du verset, et je vous ferai remonter. C'est la promesse de Dieu, la délivrance, un jour. Et c'est la promesse de Jésus, c'est en face des portes de l'enfer que je bâtirai mon Église. En conclusion, le récit de l'Exode, c'est quoi? C'est le récit palpitant de comment un peuple qui était maltraité, méprisé, faible, sans force, l'a emporté sur la nation la plus puissante de la planète, contre les forts. Nous sommes horrifiés par les souffrances terribles qu'ils ont dû traverser. Et ça nous laisse des questions dont nous n'avons pas toutes les réponses. Mais soyons encouragés de la manière que Dieu pourvoit, de la manière que Dieu est toujours avec les siens dans leurs épreuves. Dieu n'abandonne jamais son peuple. La persécution, des questions, mais il y a une action de Dieu. Mais il y a aussi une action qui est attendue de nous. Il y a des choses que nous pouvons faire. S'informer. Il y a des publications extrêmement intéressantes qui nous apportent des nouvelles de mois en mois. Il y a des livres passionnants, Chrétiens de l'ombre, où on peut se plonger dans la réalité de nos frères et sœurs aujourd'hui. On peut écrire des lettres aux ambassades dans nos pays, et souvent ces publications nous proposent des textes. On a seulement à poser une signature. On peut prier en s'informant. Il y a des voyages qui sont proposés, qui ne sont pas à la portée de chacun, mais peut-être à la portée de quelques-uns. Certains sont déjà allés pour encourager ce peuple souffrant. D'autres iront encore. Le peuple de Dieu était accablé. Mais non pas écrasé. Souffrant, Oui, mais non abandonné. Et n'est-ce pas l'histoire du peuple de Dieu jusqu'aujourd'hui? Dimanche de l'Église persécutée. Non pas l'occasion de se culpabiliser parce que chez nous, on n'a pas été suivi au culte. Les voisins nous ont pas épiés. Mais quand même l'occasion de se souvenir que des frères et sœurs membres de notre famille dans le monde aujourd'hui souffrent et ont besoin de savoir que nous sommes solidaires avec eux. Amen.